Shalom peuple béni de Dieu, nous rendons grâce à notre Père pour le souffle de vie et sa bonté, plutôt ses bontés qu'il a renouvelées ce matin. Nous voulons poursuivre notre enseignement sur les fêtes de l'Éternel, ou plutôt les sept fêtes de l'Éternel. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons toucher la quatrième fête. Nous allons parler de la fête des semaines ou la Pentecôte. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Lévitique. Nous lirons du verset 1er au verset 2, ensuite du verset 15 au verset 20, 22. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Si c'est ta Bible, tu peux souligner cette partie. Mes fêtes. Ensuite, à partir du verset 15, Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut. Un jeune taureau. Et deux béliers, vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 19. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec les pains. Les prémices et avec 2 agneaux, elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants et tous les dont une loi. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez. Enfin, le verset 22. Quand vous ferez la moisson dans vos pays, tu laisseras un coin de ton champ sans moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres, à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Oui, bien-aimés, nous voulons partager sur les fêtes de l'Éternel. En effet, en Israël, chaque année, Israël devait observer principalement 7 fêtes religieuses. Elles étaient célébrées au cours des 7 premiers mois de l'année religieuse. Les 3 premières fêtes, c'est-à-dire les fêtes que nous avions déjà vues, c'est-à-dire la fête de Pâques, de la Pâque plutôt, la fête des pains sans levain et des prémices, étaient célébrées au premier mois. Hein, qui correspond au mois de Nissan. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous allons parler de la quatrième fête, la fête des semaines ou la fête ou la Pentecôte. Celle-ci était célébrée le 3e mois. Et nous allons essayer de voir ici le sens spirituel ou l'importance dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Parce qu'il est écrit que ces choses sont écrites pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Que signifient donc ces fêtes pour nous? Puisque ce qu'Israël a expérimenté dans la chair, pour nous, cela doit se passer de façon spirituelle. Alors, que signifie la fête des semaines ou encore la Pentecôte? Est-ce que les apôtres, après la descente du Saint-Esprit, célébrer la Pentecôte comme cela se passe aujourd'hui dans le monde religieux où on célèbre la fête de Pentecôte. Et durant cette fête, généralement, on parle du Saint-Esprit et on dit c'est la fête du Saint-Esprit. Donc c'est comme si on attendait seulement ce jour-là pour parler du Saint-Esprit et attendre quelque chose de la part du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons comprendre. En effet, pendant la fête des semaines, c'était 7 semaines entières. Pendant cette fête, hein, la fête des semaines qui est aussi appelée la Pentecôte, cette fête avait lieu en effet lors de la moisson du blé. En fait, il y avait deux moissons. La première fête, plutôt la fête des prémices que nous avons vues, c'était la petite moisson. Maintenant, la fête des semaines ou la Pentecôte, on célébrait ici la grande moisson. En fait, cette fête, hein, qui signifie la fête de semaine, pourquoi on appelle ça Pentecôte? Parce que cette fête était célébrée le 50e jour. Hein, Pentecôte qui signifie 50, c'était le 50e jour après la fête des prémices. Ce jour-là, le peuple de Dieu se rendait, plutôt rendait grâce pour la nourriture abondante qu'il lui procurait et pour tout son soutien. C'est le jour de la Pentecôte que Dieu avait aussi déversé le Saint-Esprit sur les disciples dans Actes chapitre 2, que nous allons voir un peu plus devant. Donc, à la lumière des Écritures, au départ, cette fête avait pour but de célébrer la moisson. C'était la grande moisson. Maintenant, on dit que pendant cette fête, vous allez remarquer que lors de la première moisson, on devait agiter d'un côté et d'autre la gerbe. Mais ici, parlons de la Pentecôte, ce n'est pas seulement la gerbe qu'il faut agiter, mais c'était plutôt les deux animaux qu'il fallait agiter d'un côté et d'autre. Et on dit qu'il fallait offrir 7 agneaux sans défaut et sans tache. Nous avons déjà expliqué, dit au commencement, lorsque nous avons introduit ces fêtes, qu'en effet, toutes ces fêtes ne parlaient que de Christ. Hein? La Bible dit, ces gens sont des Écritures. Ils croient avoir la vie en elles. C'est dans Jean chapitre 5, je crois le verset 35. Mais ils ne savent pas que, en réalité, toute l'Écriture ne parle que de moi. Bien-aimés, si nous voulons comprendre les Écritures, voilà un secret. Cherche Jésus dans chaque page de la Bible, alors tu comprendras. Parce que toute la parole de Dieu ne parle que de Christ. Parce que c'est lui qui est la parole. Donc, c'était le 50e jour qu'on devait célébrer la fête, en effet, de la moisson. Et c'était bien aimé la grande moisson. C'était le temps où bien aimé l'agriculture. Donner bien-aimé, c'est en fait la moisson du blé. Hein, vous savez que c'est avec le blé qu'on fabrique, on fait du pain. Donc c'était la grande moisson. Et pendant cette moisson, les gens glorifiaient l'Éternel, les gens mangeaient et buvaient. Vous allez comprendre que différent de la fête de pain sans levain, ou même la fête des gerbes, ici on avait autorisé qu'on puisse ajouter de la levure. Donc c'était la grande joie, c'était la fête bien-aimée de joie. Je ne suis pas en train de dire que ici on autorisait le péché, mais c'était bien-aimé la joie. Pourquoi? Parce que les gens venaient de recevoir en abondance, bien-aimé, le fruit de la terre venant de l'Éternel. Donc cette fête avait pour but de commémorer bien-aimé la richesse terrestre que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Pour dire que Dieu avait béni la terre, donc il fallait glorifier, reconnaître que cela venait de Dieu. Mais cela se passait, bien-aimé, le 50e jour. Or, lorsque nous voyons bien-aimé le chiffre 50, nous nous rappelons que les Lévites devaient rentrer bien-aimés en retraite lorsqu'ils avaient l'âge de 50 ans. C'était à l'âge de 30 ans, hein, un peu plus devant, à 25 ans aussi, certains commençaient le service. Mais à l'âge de 50 ans, les Lévites devaient prendre le repos. Les Lévites devaient se reposer parce que c'était bien-aimé la retraite. Donc on suppose que à 50 ans, un lévite ne peut plus travailler, un lévite devient faible. Nous comprenons pourquoi. Lorsque Jésus avait dit aux pharisiens qu'Abraham avait vu son jour, ils ont dit, tu n'as même pas 50 ans. Et tu oses dire que tu as vu Abraham. Tu n'as même pas 50 ans. Et tu veux dire que tu as vu le jour d'Abraham. Parce que, bien aimé, peut-être qu'en regardant Jésus, il avait l'air de quelqu'un qui avait 50 ans alors qu'il n'avait que 30 ans ou 30 et quelques ans. Or, lorsque, bien aimé, on parle de la retraite, on parle, bien aimé, de la faiblesse. Et lorsqu'on parle de la faiblesse, cela nous rappelle ce que Jésus a dit à Pierre dans Jean chapitre 21, verset 18. Il a dit à Pierre, il dit, Simon, Simon, l'heure vient où, il dit, quand tu étais jeune, ils ont appelé ça, j'aime beaucoup ça. Jean chapitre 21, le verset 18. Il dit ceci. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Gloire au Seigneur. Simon était jeune, mais Jésus annonçait déjà qu'il y aurait un jour où Simon devait devenir vieux. C'est-à-dire, un jour où Simon allait avoir 50 ans. C'est-à-dire, un jour où le 50e jour allait arriver dans la vie de Simon. Or, que signifie être jeune et être vieux? Parce que cela ne parle pas des choses charnelles. Il s'agit ici, bien aimé, des choses spirituelles. Un jeune, c'est celui qui va où il veut, qui fait ce qu'il veut. Mais un vieux, c'est celui qui ne fait plus ce qu'il veut, qui ne va plus où il veut, mais c'est un autre qui le conduit. Or, étant dans le monde, avant de recevoir le Seigneur, c'est-à-dire de recevoir le Saint-Esprit, nous étions jeunes. C'est lorsque nous avons reçu l'Esprit en nous que, bien-aimés, nous sommes devenus des vieux, de telle sorte que nous n'allons plus où nous voulions. Avant, j'avais le désir d'aller en boîte de nuit. J'avais le désir de faire ce que je voulais. Mais quand le Seigneur est entré dans mon cœur, il m'emmène, bien-aimé, dans des lieux que, bien-aimé, mes pieds n'étaient pas, bien-aimé, supposés suivre. Parce que dans la chair, mon cœur suivait, bien-aimé, les convoitises du siècle présent. Mais quand il est entré dans ma vie, j'ai livré mes membres, bien-aimés, au Seigneur comme un sacrifice vivant. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vais maintenant où le Saint-Esprit me conduit. C'est un peu comme les enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils faisaient ce qu'ils voulaient, bien qu'ils étaient esclaves. Ils se dirigeaient comme ils voulaient. Mais dès que bien-aimés ils sont sortis de l'Égypte, Dieu devait les conduire par la colonne de feu et par la colonne de nuée. La colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. Et bien-aimés, depuis ce jour-là, tout ce qu'ils faisaient, c'était bien-aimés de suivre le mouvement de la colonne. Quand la colonne faisait 2 jours, ils faisaient 2 jours au même endroit. Quand la colonne se déplaçait, ils se déplaçaient. Et c'est ça la vie, bien-aimés, de celui qui a reçu le Saint-Esprit. Car lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on devient vieux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un vieux n'a plus de force pour se battre. Un vieux n'a plus de force pour remettre le mal par le mal. Un vieux, bien-aimé, n'a plus de force pour s'insulter, n'a plus de force pour convoiter les femmes, parce qu'il est devenu vieux. Nous sommes en train de parler, bien-aimé, du Saint-Esprit. Voilà pourquoi. Comme c'était le 50e jour, parce que Christ, comme l'agneau immolé, il est mort exactement le jour de la Pâque. Quand il est mort, 50 jours après, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passa? Alors que les disciples étaient rassemblés dans le lieu, bien-aimé, dans un lieu sûr, bien-aimé, la Bible dit qu'ils étaient bien-aimés au même lieu, dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. Eux, ils étaient en train de prier, mais il y avait des fêtards, des gens qui étaient venus de partout pour célébrer la Pentecôte. Qu'est-ce que je veux dire? Les apôtres ne sont pas des pentecôtistes. Eux, ils ne célébraient pas la Pentecôte. Mais eux, ils étaient bien aimés dans la chambre haute en train de prier. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Il se fit un grand bruit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Et je vais ajouter quelque chose. Après, bien aimé, cet événement, on ne voit pas un endroit où les apôtres ont commencé à célébrer soi-disant la fête de Pentecôte, la fête du Saint-Esprit. Parce que la fête des semaines ou la fête des Pentecôtes, c'est une fête juive. C'est une fête juive que Dieu avait ordonné que les Juifs puissent célébrer afin de se souvenir que le fruit de la terre venait de Dieu. Une façon de rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi pendant cette fête, les gens faisaient aussi, bien aimé, des offrandes volontaires. Donc la fête de Pentecôte n'est pas une question d'une journée, mais c'est une question de tous les jours. Car lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'attendre un jour de nous pour célébrer le Saint-Esprit. Il est notre ami. Il devient un avec nous. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Donc on marche avec lui partout 24 heures sur 24. Et malheureusement aujourd'hui, il y a des systèmes dans les milieux religieux où à chaque fois que les gens se rassemblent, ils doivent appeler que le Saint-Esprit descende. Non, le Saint-Esprit est en vous. Il ne doit pas descendre comme s'il descendait dans l'atmosphère. Et plusieurs sont trompés comme ça. On invoque d'autres esprits, on dit le Saint-Esprit rentre dans la salle, sentez l'atmosphère. Quelle atmosphère? Et il y a même, bien aimé, un Saint-Esprit soi-disant, un soi-disant Saint-Esprit qui est commandé, qui est dirigé par des pseudo-prophètes. Il dit, j'envoie l'esprit du côté droit, là où vous voyez les gens tomber. Les gens pensent que c'est ça l'esprit. Bien aimé, on ne peut pas commander Dieu. On ne peut pas orienter Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Le Saint-Esprit présenté aujourd'hui, souvent dans les réunions où on enseigne l'onction, le réunion sur l'onction, l'onction de l'esprit, pour faire tomber, faire on dame les vestes sur les gens, des moucheurs, etc., les gens tombent. Au sens que c'est ça l'onction. Faisons très attention. On ne peut pas manipuler Dieu parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si vous lisez ça dans Actes chapitre 5, vous verrez cela. Lorsque Ananias et Saphira avaient menti sur la vente de leur champ, qu'est-ce que Pierre avait dit à Ananias? Il dit, sache que ce n'est pas à un homme que tu as menti. Il dit, qu'est-ce qui vous a pris de tromper le Saint-Esprit? Sachez que ce n'est pas un homme que vous avez trompé. Ce n'est pas un homme que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Donc le Saint-Esprit n'est pas quelque chose, mais le Saint-Esprit c'est une personne. Le Saint-Esprit c'est Dieu en nous. Le Saint-Esprit en effet, c'est la présence du Père et du Fils en nous. Jean chapitre 14, verset 24. Si quelqu'un m'aime, il m'aimera. Je l'aimerai, le Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Vous de même, après avoir écouté la parole vraie, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Comme un gage que Dieu a marqué, comme un gage que Dieu a marqué, le sceau sur vous. Le Saint-Esprit bien-aimé, c'est Dieu en nous. Dans le siècle passé, l'Esprit bien-aimé travaillait dans ces hommes de l'extérieur. Mais à partir de Actes chapitre 2, l'Esprit bien-aimé travaille maintenant de l'intérieur. C'est lui qui est notre guide, c'est lui qui nous conduit, parce qu'il est au-dedans de nous. Il nous parle et il parle à notre cœur. Voilà pourquoi faites attention. Avec ces doctrines qui sont présentées aujourd'hui, où un homme vient, il va vous dire, non, moi j'ai un ange. J'ai un ange qui marche à côté de moi. Oh, l'ange marche avec moi, l'ange est l'Éternel. Quel ange? Fais attention. Si, dans Actes chapitre 1, pour choisir Matthias, ils étaient obligés, bien-aimés dans le Seigneur, de faire le tirage au sort, parce que le Saint-Esprit ne vivait pas encore en eux. Mais quand le Saint-Esprit bien-aimé était venu, il n'était plus obligé de faire le tirage au sort. Il suffisait simplement de prier. Il devait avoir un témoignage bien-aimé des deux côtés. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 15, lorsque bien-aimé, ils ont eu cette conférence dans Actes chapitre 15, ils n'ont pas eu besoin bien-aimé de faire le tirage au sort. Parce qu'ils avaient l'esprit en eux. Quand Jacques a parlé, a reconnu ce que Paul avait annoncé, les autres ne pouvaient plus bouder parce que, bien aimé, le même esprit avait témoigné dans leur esprit. C'est vrai que Dieu peut nous parler par des songes. Dieu peut nous parler par des visions, comme par exemple le cas de Pierre. Pierre a vu une vision où on lui disait de tuer les animaux impurs et de manger. Il n'avait pas compris la vision. Alors que de l'autre côté, l'esprit, l'Éternel avait parlé à Corneille, lui demandant d'envoyer quelqu'un dans la maison de Simon pour l'appeler pour que celui-ci vienne lui annoncer l'évangile. Automatiquement, lorsque Pierre a vu ces gens, il a compris le sens de la vision. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Dieu peut nous parler par des songes. Paul voulait aller prêcher l'évangile quelque part. Il voulait tellement aller là-bas. La nuit, il dort. Il fait un son dans lequel il y a un homme qui l'appelait vers Macédoine. Et finalement, il a compris que c'est le Seigneur qui lui parlait par son esprit. Et nous faisons très attention. Pourquoi, bien-aimé, on célébrait la fête de la Pentecôte? C'était, bien-aimé, le temps où l'Esprit bien-aimé était descendu. Or, dans Éphésiens chapitre 4, lorsque l'Esprit est descendu, avec quoi était descendu l'Esprit de Dieu? Souvenez-vous de l'histoire d'Élie et d'Élisée. Juste avant qu'Élie ne soit ravi vers le ciel, la Bible dit, il a dit à Élisée, fais une demande, demande-moi ce que tu veux, avant que je ne me sépare de toi. Il a dit, je veux la double portion de ton esprit. Il dit, si tu me vois monter, cela te sera possible. Et là, Élisée a vu Élie monter, et bien-aimé Élisée a fait ça, a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Un jour, on parle sur char d'Israël et sa cavalerie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le manteau d'Élie était tombé. Et Élisée a pris le même manteau, il a frappé la mer. Il dit, où est le Dieu d'Élie? La mer se séparait en deux. Voilà encore un passage mal compris, souvent mal interprété par plusieurs personnes, mal inspirées, dans le but de contrôler, de dominer les gens, avec un esprit purement sectaire, le désir de contrôler les gens. On dit, bien-aimé, c'est ton père spirituel qui a un Dieu, toi tu n'as pas de Dieu. Donc comme Élisée avait dit, où est le Dieu d'Élie? Ça veut dire que lui-même, il n'avait pas de Dieu. Son Dieu, c'est le Dieu d'Élie. Donc partout où il va passer, il va dire que moi, je suis le fils spirituel d'Élie, hein, d'un tel. Je fonctionne sous l'onction de mon père spirituel. Voilà, bien-aimé, une hérésie. Tous nous avons reçu l'onction venant de Dieu. Hein, c'est lui qui est la tête. La Bible dit, l'onction qui est descendue sur la tête d'Aaron qui représente Christ, c'est la même onction qui était descendue sur le bord de ses vêtements. Psaume chapitre 33. C'est cette onction qui est descendue sur le bord de ses vêtements. Le même esprit qui était sur Christ est descendu sur nous. Voilà pourquoi la Bible dit donc, Éphésiens chapitre 4, lisons un peu ça, j'aime beaucoup ça. Éphésiens chapitre 4, on peut commencer à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Voici ce que la Bible dit. Bon, Éphésiens chapitre 4, verset 7 à 13. Il est écrit. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il en a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est monté, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns d'être comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, les autres comme docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure statue parfaite de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. C'est-à-dire que lorsque l'Esprit est descendu, l'Esprit était descendu bien-aimé avec les cinq ministères. Si dans l'ancienne alliance, l'onction était orientée vers trois personnes, c'est-à-dire vers le roi, vers le sacrificateur et vers le prophète, en ce temps de la fin, le même Esprit bien-aimé descend sur chaque personne. C'est pourquoi dans Joël chapitre 2, il est écrit, dans les derniers jours, je répandrai mon Esprit sur toute chair. Donc sur toute chair, sur toute personne bien-aimée qui croit en son nom. Voilà pourquoi Jésus, ce jour-là, le jour de la grande fête, s'écria dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et la Bible dit, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il est écrit, il parlait de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore descendu, parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Or, lorsqu'il fut glorifié, c'est comme ça que, bien-aimé, l'Esprit était descendu sur les saints. Et or, quand on parle de la fin des temps, ce n'est pas 1900 et quelques. Parce qu'aujourd'hui, il y a un groupe religieux comme ça, hein, qui se rassemble autour du nom de Branham. On dit, OK, hein, le seul prophète de la fin des temps, c'est Branham. Si tu n'écoutes pas sa parole, c'est que le ciel est fermé pour toi. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Lorsqu'il est monté, il a fait des dons aux hommes. Il a donné aux uns d'être comme prophète, comme apôtre, comme docteur, comme prophète. Et bien aimé, le mot prophète ici, c'est au pluriel. On n'a pas parlé d'un prophète, mais des prophètes. Mais qu'en est-il qu'on nous dise qu'il n'y a qu'un seul prophète, soi-disant, l'Église est divisée en âges, donc c'est le septième âge, lui c'est le septième ange, le seul prophète, faut l'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, ça sont des hérésies. Lisez Hébreux chapitre, voilà un verset que les branhamistes n'aiment pas. Hébreux chapitre 1, verset 1, la Bible dit, autrefois il a parlé à nos pères par les prophètes, mais en ce temps qui est le dernier, il nous parle par le Fils. Alors, si Branham, c'est le fils, alors j'accepte. Mais lui, en ce temps qui est le dernier, il ne nous parle pas par le prophète, mais par le fils. Or, lorsqu'on parle du fils, on voit bien aimé la gibecière de David. David avait une gibecière. Et dans la gibecière de David, il y avait cinq pierres. Les cinq pierres qui représentent bien aimé les cinq ministères. Pour recevoir ce ministère, il faut s'identifier à Christ par sa mort. Et si plaise à Dieu, si Dieu le veut, il t'appelle au ministère, il te donnera l'un des ministères où tu pourras bien aimé fonctionner au travers bien aimé de ces ministères, mais tu auras un ministère. Voilà pourquoi. Les gens ne changeront pas aussi de ministère. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? En tout cas, j'ai vu ça souvent en Afrique, où les gens changent de ministère, ils pensent qu'il y a des ministères plus petits que d'autres. Hein? Quand tu commences ce ministère, tu es jeune, on dit que tu es évangéliste. Alors, tu commences, on te donne la responsabilité d'une église. Tu deviens pasteur. Et comme la Bible dit, il a établi premièrement les apôtres et les prophètes. Alors, pour avoir des gens sous toi, tu montes, tu deviens apôtre. Et par conséquent, tu es au-dessus du pasteur et de l'évangéliste. Tu fais un sens, ça s'accomplit, tu deviens prophète. Ô bien-aimé dans le Seigneur, revenons à la parole. Revenons à la parole et nous verrons la gloire de Dieu. Donc, la fête de Pentecôte représentait, bien-aimé, sept moissons. Et cette grande moisson parlait de la moisson bien-aimée des âmes. Parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est là que la grande moisson avait commencé. C'est là que la grande moisson avait commencé. Voilà quoi vous constaterez, même dans le commencement, dans Genèse chapitre 2, bien-aimé, ce mystère-là revient. On dit, voici en réalité les origines des cieux et de la terre. Genèse 2, verset 4 à 8. En réalité, sur la terre, aucun arbuste ne germait encore. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. C'est comme ça que, bien-aimé, les arbres avaient poussé. Donc, la terre était bien-aimée, on s'émançait. Mais qu'est-ce qui faisait que la terre ne produise pas? Parce que l'eau n'était pas descendue. Donc, Jésus avait laissé les enseignements aux apôtres. Mais avant de commencer à les enseigner, avant de commencer à les faire les apôtres, les disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez l'eau du ciel. Alors, quand l'eau descend, c'est ainsi que les plantes vont pousser et bien-aimé, les fruits seront visibles. Voilà pourquoi il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est quand ils ont reçu l'Esprit qu'ils ont vu la manifestation de ces signes. C'est pourquoi, bien-aimé, ne prends pas le risque d'aller prêcher l'Évangile si tu n'as pas le Saint-Esprit. Sans l'Esprit, bien-aimé, il n'y a pas d'exercice du ministère. Ce n'est pas la connaissance biblique, non. Il faut être rempli de l'Esprit, même Adam. Lorsqu'on a pris Adam, verset 8 de Genèse 2, on dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais avant de le placer dans le jardin, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et c'est ainsi qu'il plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc l'Esprit de Dieu, en nous bien-aimés, est primordial. Et c'est une condition sine qua non, bien-aimé, pour exercer le ministère. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Éphésiens 5, verset 18. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Mais quel est le critère aujourd'hui de choix dans nos églises? Très souvent, ce sont des critères charnels. On donne l'argent à quelqu'un. On donne la gestion de l'argent à quelqu'un parce qu'il a fait économie ou encore qu'il travaille dans l'administration, dans la société. On donne une responsabilité à quelqu'un en fonction de son poste. Dans une église, quelque part, on avait placé quelqu'un ancien de l'église parce qu'il était commandant des forces armées. Donc, comme il est commandant, on dit qu'il est ancien, bien-aimé. Il va mettre les gens au garde à vous à l'église là-bas. Oh, bien-aimé, faisons très attention. Aujourd'hui, dans les églises, pour choisir les chantres, on fait le test vocal, le test de la voix. Faisons très attention. Quelle fut, bien-aimé, la conduite à tenir des apôtres pour choisir pour la première fois les diacres? Lisons un peu Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, quelle fut la condition? Quels étaient les critères? Actes chapitre 6. La Bible dit, je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 5. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Écoutez les critères. De qui l'on rende un bon témoignage, premièrement, il faut qu'il ait un bon témoignage. Deux, qu'il soit plein d'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Troisièmement, et de sagesse, que nous chargerons à cet emploi et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Bien aimé, on peut s'arrêter là. Voilà les critères. Un bon témoignage. Et ensuite, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Lorsqu'on choisit les gens aujourd'hui dans les églises, quels sont les critères? Très souvent des critères charnels. Voilà pourquoi l'église est paralysée aujourd'hui. Les gens placent les gens comme responsables parce qu'ils sont responsables dans la société ou parce qu'ils sont bien positionnés ou ils ont l'argent. Voilà pourquoi l'église est faible aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, les critères ici, bien-aimés, c'était des critères d'abord spirituels. Voilà pourquoi même pour placer les diacres, l'apôtre Paul écrit à Timothée. Il dit que cette personne qui veut prendre la charge de conduire l'église doit d'abord conduire, bien conduire sa propre maison. S'il ne peut pas bien conduire sa propre maison, comment saura-t-il conduire l'église de Dieu? Il n'a pas un bon témoignage. Lui-même, sa maison, déséquilibrée, tout le temps, il se bat avec sa femme, tout le temps de problèmes entre lui et sa femme. Il n'arrive pas à gérer sa propre maison. Mais comment il va gérer l'église? Voilà pourquoi l'église est déséquilibrée. Bien-aimé dans le Seigneur. Le premier lieu de la prédication de l'évangile, de notre témoignage, c'est d'abord notre propre maison. Parce qu'à l'église, au milieu des gens, on peut se cacher, on peut cacher nos caractères. Mais ta propre maison, quel est le témoignage que ta femme rend de toi? Ou que ton mari rend de toi? Tes frères, tes enfants rendent de toi? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons vivre l'évangile avant de prêcher l'évangile. De telle sorte que lorsque nous allons prêcher, que cela ne soit pas simplement une connaissance intellectuelle, mais notre vie, notre expérience que nous partageons. Ô bien-aimé dans le Seigneur, la fête de la Pentecôte, pour nous aujourd'hui, nous devons la fêter tous les jours. Tous les jours, nous devons être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et la version hébraïque, ou plutôt on est en grec, hein, le passage qui dit, soyez remplis, c'est soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et pour être remplis du Saint-Esprit, nous devons éviter d'attrister le Saint-Esprit. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Car celui qui connaît le chemin pour nous conduire vers le Christ. Abraham avait demandé à son serviteur de jurer d'aller prendre une femme pour son fils. Et Abraham était allé, Eliezer était allé prendre Rebecca. C'est Eliezer qui avait conduit Rebecca vers Isaac. Et pendant qu'il marchait, Rebecca était à côté du serviteur d'Abraham qui représente le Saint-Esprit, qui conduisait la femme vers son fils, le fils d'Abraham. Et tout le long du chemin, bien-aimé, le long, pendant qu'il marchait avec Rebecca, le Saint-Esprit expliquait ce qu'est Isaac. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Un jour, nous parlerons, bien-aimé, du chandelier et les pains de proposition. Il y avait la lumière et les pains. Le chandelier éclairait les pains, le but de l'esprit, le but de l'onction. C'est pour nous enseigner, nous révéler Christ, car Christ a dit. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant, mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. Et une autre chose, le Saint-Esprit glorifiera toujours Christ. Quand, si vous voyez quelqu'un commencer à se glorifier, posez-vous la question, est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Celui qui a l'Esprit de Dieu va chercher toujours à glorifier Christ. Et le Saint-Esprit ne se glorifie pas. Voilà pourquoi vous allez constater, les apôtres, eux, ils ne glorifiaient pas le Saint-Esprit. Ils glorifiaient Jésus, pas le Saint-Esprit. Mais il y a une doctrine aujourd'hui qui conduit les gens à glorifier l'Esprit de Dieu. Faites attention qu'au lieu que ce soit l'Esprit de Dieu, que vous glorifiez un autre esprit. Car selon le modèle de Christ, nous prions au Père, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas que vous allez être là, vous rassembler, vous chanter à la gloire du Saint-Esprit. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Je ne doute pas que le Saint-Esprit soit Dieu, parce qu'en lui, nous trouvons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais par rapport à la terre, selon notre façon de faire, révélée par Christ et les apôtres. Les apôtres n'ont pas glorifié le Saint-Esprit. Les apôtres glorifiaient Christ, glorifiaient le Père, mais pas le Saint-Esprit. Nous allons nous arrêter là. Prochainement, nous allons continuer avec la cinquième fête. Nous parlerons enfin de la fête des trompettes. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Des ajouts, n'hésitez pas. Des suggestions, n'hésitez pas. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes limités et nous nous édifions ensemble pour atteindre cette statue parfaite de maturité en Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.